Aleph, toujours en direct des planches et des vaches, nous avons l'occasion d'interviewer Benoît Dahan, qui fait partie des auteurs derrière Psycho-Investigateur, une série qui sort chez l'éditeur petit à petit. Alors Benoît Dahan, on va le laisser se présenter, puis ensuite on va enchaîner une avalanche de questions. Alors Benoît Dahan, qui êtes-vous?
Bonjour déjà,
bonjour.
Merci pour cette interview. Alors moi je suis illustrateur depuis 96 maintenant quand même, ça ne nous rajeunit pas. Et pas mal d'années après avoir fait de l'illustration de presse, livres jeunesse, publicité, etc. Je me suis dit qu'il fallait que je concrétise mon rêve d'enfant d'essayer de faire de la BD. Donc on a avec mon ami Erwan Courbier qui fait le scénario avec moi. On a lancé plusieurs projets de BD, dont finalement c'est le troisième, Psycho-Investigateur, pour lequel on a réussi à trouver un éditeur. Il y a un passé éditorial un peu compliqué parce qu'on a des éditeurs qui ont coulé, voilà. Et maintenant, nous sommes chez Petit à Petit, donc éditeur normand basé à Rouen. Et nos aventures, en fait, il existe un gros livre qui est en fait une intégrale de trois parties parues précédemment, qu'on peut se procurer maintenant uniquement sur le site de Petit à Petit. La nouveauté, c'est la quatrième aventure qui est sortie l'année dernière. Ça s'appelle Psycho-Investigateur, l'héritage de l'homme siècle. C'est une BD de 66 pages plus des pages de bonus, ça fait 80 pages en tout, qui tient toute seule, c'est-à-dire qu'on peut la lire sans avoir forcément les épisodes précédents, qui est une aventure du coup toujours dans cette série polar fantastique. Le héros est un psychanalyste qui a le pouvoir surnaturel de voyager à l'intérieur des souvenirs des gens. Du coup, ça lui permet de guérir ses patients de cette manière et d'aider la police dans des enquêtes.
Voilà, donc c'est une bande dessinée, donc du coup, on le disait, qui a commencé chez Emmanuel Proust, qui a eu des mésaventures aussi éditoriales. D'ailleurs, collection trilogie, on a beaucoup d'auteurs qui sont présents à ce Festival des Planches et
c'est
des
vrai,
Vaches.
C'est vrai.
On a regardé effectivement sur l'ensemble, il y a beaucoup. Donc le psycho-investigateur, donc, qui au-delà du rôle de psychanalyste, va vraiment rentrer physiquement dans les souvenirs de ses patients. Il y avait des inspirations qui venaient de quelque part précisément. Il y avait quelque chose qui va donner envie de faire ce personnage ou...
Alors aucun de nous deux, entre moi et Erwan, aucun de nous deux n'a fait des études de psycho, donc on n'est pas des experts. Après c'est un sujet qui nous a toujours intéressé et qui offre plein de possibilités dans le cadre d'une enquête policière ou non. Et là en fait, quand on a réfléchi à ce personnage au départ, on voulait vraiment créer une série d'enquêtes mais avec un petit quelque chose en plus de fantastique. On a réfléchi à quel type de pouvoir pourrait être sympa à développer là-dedans et on a pensé qu'il existait déjà des personnages qui voyagent dans les rêves, donc ça nous a donné l'idée de faire un personnage qui voyage dans les souvenirs, ce qui est un petit peu différent. Il y a toujours l'inconscient qui est présent comme dans les rêves, mais c'est pas autant irréel que les rêves. En plus, ça peut être aussi pris comme un peu une métaphore du travail d'un psychanalyste, puisque finalement, c'est un peu une sorte de super psychanalyste qui a accès de manière directe aux souvenirs de son patient, ce qui représente quand même une bonne partie du travail d'un véritable psychanalyste, de débrouiller les souvenirs d'un patient.
Vous avez travaillé donc avec des psychanalystes ou pour vous renseigner un petit peu sur ces questions-là ou pas? Vous êtes vraiment parti en disant est-ce qu'on a lu quelques bouquins ou sinon lâche le livre encore dans ton imagination?
Alors on s'est bien sûr documenté quand même. Ça reste une histoire fantastique et vraiment de la fiction, donc bien entendu il ne faut pas chercher l'exactitude scientifique à tous les coins de rue, mais au demeurant, on s'est vraiment documenté. Alors moi, j'ai des gros dictionnaires de psycho, bien que, comme je disais, j'ai pas fait d'études, mais en tout cas, on s'est quand même bien documenté. On a essayé que les termes employés soient les vrais.
D'accord.
Que dans les parties qui sont pas purement fantastiques, le jargon psychanalytique a priori est bon. Et puis, alors pour la toute première partie, donc c'est vraiment le premier tiers de cette intégrale, on avait une amie psychologue qui nous avait un peu validé le comportement des personnages, qui nous avait dit que ça fonctionnait et que c'était juste. Voilà. Par la suite, on avait plus, elle était plus disponible. Mais donc, on s'est débrouillé tout seul, mais toujours en se documentant. Voilà.
Alors, le premier tiers, effectivement, dans cette trilogie, effectivement, c'est basé sur une vraie enquête. Les deux derniers tiers vont vraiment s'intéresser au personnage de Simon Radius et à sa psychologie, pardon, à lui. On est sur une histoire qui prend un tour différent quand même à partir de ce moment-là et qui va vraiment explorer le personnage et pas seulement son enquête. On est sur quelque chose de plus complexe.
Oui, en fait, alors pour être un tout petit peu plus précis, dans chacune des trois parties de cette intégrale, il y a une enquête complètement séparée quand même de Simon Radius. Donc il y a quand même une enquête différente à chaque fois, c'est pas que dans la première partie. Mais plus on avance et plus c'est relié avec sa propre histoire personnelle, qui est en toile de fond, effectivement, à propos de la disparition de sa femme. Et donc cette question-là est réglée à la fin de ce cycle, c'est-à-dire de cette intégrale. Et on sait le pourquoi du comment, je ne vais pas le dire maintenant, bien sûr. Mais oui, voilà, c'est vraiment une histoire à tiroir où il y a deux trames qui se superposent avec une toile de fond.
La première partie, effectivement, on est sur une mise en page qui est déjà assez inventive, enfin sur la manière de représenter l'intégration au rêve. Dans le nouveau tome, L'Homme du siècle, on est carrément sur presque du livre-jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des jeux de transparence, il y a des dessins qui se lisent en différents sens. Il y a vraiment une recherche par rapport à ça. C'était quelque chose qui était une envie qui venait d'une carrière précédente, où c'était une frustration du premier tome d'être resté sur quelque chose de peut-être plus sage.
Alors en fait, c'est plus une évolution naturelle. C'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé en faisant les premières aventures, en fait. Donc c'est des idées qui sont venues en même temps et au fur et à mesure. Donc c'est pas qu'on n'avait pas pu les faire avant, c'est plutôt que l'idée nous est venue après. Et donc du coup, on s'est dit, dans cette bande dessinée où déjà on enfreint pas mal de codes sur le... On joue avec les cases, il y a un trou dans la couverture, etc. Ça collait très très bien par rapport à la technique d'enquête du héros, d'utiliser encore d'autres codes de narration, par exemple d'utiliser la transparence du papier où il faut regarder une page pour superposer deux images en regardant avec une lumière derrière, des choses comme ça où des fois on retourne la BD pour voir une image d'Épinal. Donc ça s'inscrit bien dans ce type d'enquête, ça colle bien, et c'est des idées qu'on a eues au moment de la création. Donc ça ne vient pas de quelque chose qu'on n'a pas pu faire avant, ni d'un métier que j'aurais eu avant.
Non, mais je pensais effectivement par rapport à une carrière dans l'illustration autre. Par rapport à ça que je parlais.
Alors oui, alors c'est vrai que la question est judicieuse. J'avoue, alors je reconnais que c'est une bonne question. Alors oui, j'avais fait quelques livres pour enfants, c'est vrai. Le premier que j'ai fait vraiment il y a longtemps, en 97, ça s'appelait Les Tribulations gastriques d'Éric le Lombric, et c'était un livre animé avec des trous et des choses qui se déplient et tout ça. Alors, il n'y avait pas de transparence, mais on était vraiment dans le livre animé.
Donc on est dans les pop-up en fait.
Voilà, un peu, voilà. C'est pas le vrai pop-up où ça fait carrément un truc en 3D et tout ça. C'est pas à ce point-là, c'est juste des rabats qui se dépliaient, etc. Et puis un trou dans la couverture aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais effectivement déjà expérimenté. Par contre, le nouveau truc avec les transparences et tout ça, ça c'est nouveau. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est justement que les choses qui sont codifiées comme étant forcément faisant partie du livre jeunesse, tout ce qui est animé, on se dit tout de suite que c'est forcément pour les enfants. Et les éditeurs ont du mal d'ailleurs à accepter que ça puisse être autre chose que ça. Alors qu'en fait, on se rend bien compte que quand les gens le lisent, tout le monde apprécie ce côté justement un peu audacieux et qui change tout simplement. Pourquoi se cantonner forcément à un public et de s'imaginer que parce qu'il y a un trou, c'est forcément que pour les enfants? Voilà, bon, c'est un grand débat, mais souvent, la création, la nouveauté, naît du mélange de différentes influences, de différentes choses. C'est difficile d'inventer quelque chose de toute pièce, donc voilà.